une question. Comment se fait-il que la SNCF soit le premier transporteur routier de France ? Personnellement, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que, historiquement, la SNCF avait des compagnies routières qui assuraient, même avant que la SNCF existe, la continuité des dessertes à l'époque, déjà des compagnies privées, pour, même si le réseau était beaucoup plus dense qu'aujourd'hui, on avait déjà besoin de la route. Et puis après la nationalisation, la création de la SNCF en 1938, la nationalisation, petit à petit, après la Seconde Guerre mondiale, la SNCF a racheté des compagnies de transport routier, et puis a fini par constituer, il y en a eu très importantes, comme Bourget-Montreuil, Calverson, etc. Et effectivement, si on prend la totalité du groupe SNCF avec toutes ces entreprises de transport routier, hein, je crois que c'est vrai, c'est le premier transporteur routier.
Oui, ça, c'est incontestable.
C'est incontestable.
Non, mais le processus est un peu complexe. C'est-à-dire que dans une phase qui devait être les années 60, 70, jusque 70, les entreprises de transport routier qui appartenaient au groupe SNCF étaient conçues comme complémentaires de l'activité ferroviaire, et notamment sur les dessertes terminales ou sur certains types de trafic où la pertinence ferroviaire n'était pas établie. Le problème, c'est que avec la déréglementation du transport routier qui est intervenue au milieu des années 80 et qui a vu, la libéralisation de ce transport, c'est-à-dire que, c'est pareil, le transport routier était, dans les années 50, 60, 70, une activité régulée par la puissance publique. Les mécanismes de régulation étaient assez simples, c'est-à-dire que la puissance publique délivrait des autorisations de transport, des licences d'exploitation qui faisaient qu'on autorisait ou pas des entreprises à se créer, à s'établir, etc. On a libéralisé tout ça, c'est-à-dire qu'on a délivré des autorisations, des licences, etc. Et donc on a eu, dans cette période du milieu des années 80, dans la deuxième partie des années 80, une explosion des créations d'entreprises de transport routier, et en particulier des petites entreprises, qui ont introduit dans le transport une concurrence beaucoup plus sauvage que celle qui prévalait auparavant, puisque souvent des gens s'installaient avec un tout petit capital, achetaient un camion, et pour capter des parts de marché, ils cassaient les prix au maximum, etc. Donc on a été dans une spirale de sous-tarification très forte du transport de marchandises. Et évidemment, dans une économie de concurrence entre le rail et la route sur le marchandise, la pression concurrentielle de la route sur le rail s'est renforcée incontestablement à partir de la deuxième partie des années 80. Et du coup, la SNCF, à qui on disait par ailleurs, puisqu'on rentrait là aussi dans une logique de la libéralisation du rail est à l'horizon, donc il faut que l'entreprise devienne compétitive, il faut qu'elle règle, etc. La direction de la SNCF a fait des arbitrages en considérant qu'il était plus rentable globalement pour l'économie générale du groupe SNCF de transférer un certain nombre de trafic ferroviaire sur le transport routier, sur ses filiales routières. Ça s'est illustré aussi, par exemple, par l'évolution du CERNAM. Le CERNAM, Service National des Messageries, vous avez eu toute une période à peu près jusqu'au milieu des années 80, je ne me souviens pas exactement, dans laquelle le recours au rail par le CERNAM pour son trafic de messagerie était relativement important. Et puis progressivement, le CERNAM n'a plus fait ses transports que par le recours au transport routier et s'est équipé en camion, etc. Il n'y a plus rien qui passe par le rail jusqu'au jour où le CERNAM lui-même a été purement et simplement privatisé, externalisé, etc. Donc je pense que dans le phénomène d'existence du groupe SNCF Transport Routier, il y a le phénomène que disait Philippe de croissance, mais il y a aussi le phénomène de transfert qui a joué le jour où la concurrence du routier sur le ferroviaire en marchandises a fait que pour la SNCF et notamment ce qu'on appelle le trafic diffus, c'est-à-dire le trafic par wagon isolé qui passe par les triages, tout ça, qui est évidemment plus coûteux que le train complet qui va d'un point à un autre avec 30 wagons derrière la machine. Ça, c'est relativement rentable quand il faut dégrouper, etc., ça, ça n'est pas. Et du coup, une partie de ce trafic a été purement et simplement basculé sur la route parce que jugé financièrement non rentable, eu égard aux coûts d'exploitation du transport routier qui ont eu tendance effectivement à baisser sous l'effet de cette pression concurrentielle accrue liée à la déréglementation, c'est-à-dire la facilité offerte à créer des entreprises qui n'avaient pas de viabilité économique. Bon. Et d'ailleurs, une des grandes batailles qu'on a menées après 92 et le fameux contrat de progrès de 94, ça a été, alors à l'époque ça devait être avec Guessot qu'on a négocié ça, ça a été de réintégrer des règles publiques pour limiter les possibilités de création d'entreprises dans n'importe quelles conditions. Par exemple, on avait, je me souviens, imposé, c'est d'ailleurs un chiffre ridicule qui montre que on pouvait créer une entreprise avec moins. On avait imposé que pour créer une entreprise routière, il fallait disposer d'un capital, à l'époque, de 21 000 francs. Bon, ce qui veut dire que beaucoup d'entreprises se créaient avec beaucoup moins. Avec 1000 balles, on crée une entreprise. Parce qu'une partie des employeurs aussi à l'époque jouait le jeu, des employeurs routiers jouaient le jeu d'inciter leurs salariés à créer leur propre entreprise, donc tout en étant des sous-traitants captifs, complets de leur ancienne entreprise qui leur assurait un peu de marché quand il y avait du marché ou pas de marché du tout quand il n'y en avait pas. C'est-à-dire il y avait aussi de la part de l'entreprise qui aidait ses salariés à s'installer comme artisans, une part d'externalisation des risques. Hein. Externalisation des risques économiques s'il n'y a pas de trafic. L'entreprise, elle a toujours assez de trafic pour assurer son... Et c'est sous-traitants, c'est faux salariés extérieurs qui tirent la langue quand il n'y a pas de trafic, on ne leur en donne pas. Bon. Et quand c'est des trafics merdiques, c'est-à-dire quand les conditions posées par le donneur d'ordre faisaient que pour respecter les conditions, il fallait être à l'infraction avec les durées du travail, avec les vitesses, alors à l'époque il n'y avait pas de radar, etc., eh bien, on externalisait le risque, c'est-à-dire que ce genre de trafic, on le confiait à l'artisan, s'il se faisait plomber par un contrôle de police ou par un non-respect des règles sociales, des temps de repos, etc., c'était lui qui plongeait, le donneur d'ordre s'en lavait les mains. Bon, ça avait été une bataille aussi, d'ailleurs, à l'époque, je ne sais plus si c'est 96 ou 97, où on avait réussi à faire acter une responsabilité partielle du donneur d'ordre en cas d'infraction constatée du transporteur dans l'exécution de l'ordre donné. Bon. C'est-à-dire qu'on disait, mais s'il a fait cette infraction, il faut aussi remonter la responsabilité au donneur d'ordre, parce que c'est lui qui a imposé un délai de livraison rendant parfaitement incompatible avec le respect du code de la route, avec le respect, etc. Donc il y a tout ça qui a joué, je crois, dans...